Pronto? Pronto. C'est Cédric Arnal qui vous accueille pour un épisode spécial, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la Juventus avec moi, Antoine Aiello. Salut Antoine.
Salut, salut.
Et également un invité spécialiste de la Juventus. Si vous êtes sur Twitter, sur X, vous le connaissez certainement, que ce soit pour le côté sportif ou pour le côté plus économique. C'est l'une des références du Juventus Twitter francophone. Il s'agit de Vito. Salut Vito.
Salut Cédric, salut Antoine, merci pour l'invitation.
Et merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, épisode, on va dire, plus rapide que d'habitude. On va se concentrer sur une vingtaine de minutes sur un sujet unique. Il s'agit de Massimiliano Allegri, puisqu'en fait, il fait pas mal parler de lui, l'entraîneur. On est toujours dans le côté Allegri in, Allegri out. Je pense que depuis une bonne année, cette division, on va dire, au niveau des tifosi de la Juve et même au niveau de l'environnement de la Juventus, est assez présent. Donc, on va un petit peu s'intéresser justement à l'entraîneur toscan, à son deuxième passage, puisque le premier passage à la Juve, c'est difficile de le critiquer. 5 saisons, 5 titres, mais aussi 4 coupes d'Italie de mémoire, de super coupe d'Italie, 2 finales de Ligue des Champions. Donc, c'était compliqué de trouver des choses négatives. En revanche, depuis son retour, il y a bientôt 3 ans, c'est beaucoup plus mitigé. Alors, Vito, déjà toi, de ce retour-là, qu'est-ce que tu en penses? On va commencer de façon un petit peu globale et puis après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet, mais sur ces 3 saisons sous Massimiliano Allegri.
Bah écoute, je vais reprendre un petit peu ma façon de penser d'il y a 3 ans, au moment où les premières voix au mois de mai parlaient d'un retour d'Allegri. J'étais déjà assez sceptique parce que je ne suis pas très, très fan des retours d'entraîneurs ou de joueurs. Donc, j'étais déjà pas très emballé par l'idée. Et puis, j'avais peur aussi que le fait qu'il se soit éloigné un petit peu des terrains durant 2 saisons, j'avais peur de ce qu'il pouvait amener de nouveau au niveau du groupe Juve et à cet effectif. Et force est de constater, je trouve qu'au niveau de son projet 2.0, il n'a pas su remplir toutes les attentes qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire retrouver une Juve qui puisse être là à la lutte au Scudetto et qui puisse, entre guillemets, faire rêver ses tifosi. Et pour le moment, on n'y est pas depuis 3 ans. Donc voilà, je pense qu'il a eu 3 bonnes années et il n'a pas su faire grandir cet effectif, que ce soit qualitativement et aussi en nombre de trophées, donc d'un point de vue historique aussi. Donc je pense que voilà, le changement est peut-être nécessaire pour essayer de donner un nouveau souffle à ce groupe.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur le côté changement ou pas, puisqu'il a encore un an de contrat, Massimiliano Allegri, qui est l'entraîneur le mieux payé de Serie A, faut-il le rappeler. Antoine, toi, de regard un petit peu plus extérieur, puisque tu tifoso Rossonero, l'un des anciens clubs d'ailleurs de Massimiliano Allegri, puisqu'il a été champion avec l'AC Milan avant d'aller à la Juve. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ces 3 années? Je vais déjà donner un petit peu aussi mon avis. Pour moi, la deuxième année, tu es un petit peu à mettre, comment dire, alors pas entre parenthèses, mais un petit peu à isoler, puisque la deuxième année était vraiment particulière du côté de la Juve. Il y a eu les procès extrasportifs et il s'est donc retrouvé à gérer une situation cataclysmique où on enlevait des points, on en enlevait 12, 15, 6, 9, on ne savait jamais. Donc il a eu tout ça à gérer et où il, je trouve personnellement, comme il a réussi à bien gérer la situation, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais et voilà, toi, sur ces 3 saisons et sur les progrès ou non de la Juve sous Allegri.
C'est compliqué, moi. En Italie, ça se fait beaucoup de rappeler des entraîneurs qui ont eu une forme de succès. Milan l'a fait avec Capello, mais ça n'a pas forcément marché. L'a fait avec Arrigo Sacchi. L'Inter l'a fait aussi. La Roma l'a fait avec Spalletti.
Oui, Mancini c'est pour toujours l'Inter notamment, mais ça n'avait pas été un grand succès non plus.
C'est ça. Donc en fait, j'ai presque du mal en fait à trouver finalement un exemple de réussite d'un retour, parce que d'autant plus que si on tisse un fil commun à tout ça, on parle d'Allegri aujourd'hui, c'est très très rare des entraîneurs qui ont justement réussi leur premier mandat et très bien réussi, parce que quand on parle de Capello, Mancini ou Spalletti, c'était très bon mandat et Allegri aussi le premier. Finalement, après on a une image d'eux, et alors qu'on faut se rendre compte qu'ils ont un groupe qui est différent. Moi, son retour, en tant que tifoso du Milan, j'étais plutôt craintif dans le sens. Craintif, je vais expliquer pourquoi. Parce que justement, moi, j'avais une image d'un coach qui, avant Inzaghi l'an dernier, était le seul à avoir amené sur la dernière décennie 2 fois la Juve en finale, et plutôt avec des parcours qui étaient bons. On a tendance aussi à banaliser qu'il a quand même gagné 5 Scudetti d'affilée. Ce qui n'est pas non plus une chose qu'il faut laisser. C'est, il a fait des, 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 des doublés avec la coupe aussi, avec des super coupes, des triplés. Donc c'est quand même, si on doit juger Allegri que sur ces 3 dernières années, c'est un bilan qui est négatif. Mais finalement, la Juve a cette opportunité de le reprendre après l'échec de Pirlo. Et moi, au début, en tant que tifoso du Milan, je me suis dit, quand même, il a quand même un, ils reprennent quand même une personne qui a eu énormément de succès.
Et d'ailleurs, à l'époque, Marotta a tenté de prendre Allegri suite au départ de Conte. Donc, il y a eu une petite surenchère entre l'Inter et la Juve pour avoir la signature de Massimiliano Allegri, ce qui explique aussi le long contrat qu'a réussi à négocier Allegri, forcément, puisqu'il y avait notamment l'intérêt de l'Inter, et tu as raison de le signaler. À l'époque, c'était sûrement l'entraîneur le plus recherché lorsqu'il y a eu cette valse des entraîneurs il y a 3 ans.
Le Real aussi, on s'est été confirmé. Il a refusé le Real Madrid pour retourner à la Juve. Donc en plus, si on part aussi d'une manière un peu plus d'homme,
Sentimental.
mental, c'est quand même une personne qui bon, évidemment, c'est son travail, mais qui a un respect et qui a aussi, je pense, un vrai attachement à ce club, il faut quand même le dire.
Ça là-dessus, Vito, c'est quand même intéressant le côté respect, effectivement. Est-ce que pour toi, alors il y a eu le premier passage où il tournait à près de 2,30 points de moyenne, donc c'était quand même assez incroyable. Puis il faut le rappeler, les Scudetti remportés face à, notamment à une Roma, puis à un Napoli où, qui carburait aussi, qui faisait des saisons à 80-90 points. Donc c'était pas forcément des Scudetti. Certes, les deux clubs de Milan étaient en retrait. Mais il y avait quand même une belle concurrence à l'époque. Mais est-ce que pour toi, il représente malgré tout cet ADN Juve dans le côté, alors, c'est pas un ancien joueur, il n'a pas ce côté-là, c'est pas un Antonio Conte, par exemple. Mais est-ce qu'il s'est, selon toi, intégré, fondu dans l'ADN Juve au fil de son premier passage et de son deuxième?
Et je voulais simplement rebondir sur ce que disait Antoine. C'est sûr que le passé, je suis pour l'instant, je suis complètement, enfin, pour un départ d'Allegri, mais ça ne remet pas en cause les accomplissements qu'il a pu faire dans le passé. Je veux dire, le passé, il a gagné 5 Scudettes, il y a des coupes d'Italie, des super coupes, des finales de coupe d'Europe. Ça, c'est des choses qui sont montrées historiquement et on doit saluer ce parcours parce que c'est vrai que pendant, comme tu l'as dit, gagner 5 saisons d'affilée, autant de titres dans un même pays, c'est compliqué. Donc ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, je pense que c'est vraiment ce mandat qui dure depuis 3 ans où il n'arrive vraiment pas à insuffler quelque chose de nouveau à ce groupe en ayant eu quand même quelques changements dans ce groupe avec des investissements assez conséquents. Maintenant, au niveau du style, au début, au bout des 4 ans, je trouvais qu'il avait quand même su un petit peu s'imprégner de la culture et du style juventine, je veux dire. Et ici, il est complètement, même par sa communication, je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque. On sait très bien que la Juve n'est peut-être pas celle d'il y a 4-5 ans, mais voilà, il y a certains propos devant la presse où on ne peut pas arriver devant la presse et dire ne pas gagner pendant 1000 jours à la Juve, ce n'est pas frustrant, ou alors on a gagné un point sur Bologne. La réalité est telle, mais il y a un discours quand même à tenir devant la presse. Et ça, je pense que ça, c'est pas du tout le style Juve et c'est pas du tout la philosophie du club. Il y a un moment, il doit aussi se rendre compte de où il est et que les tifosi ont quand même certaines attentes par rapport à ça. Donc voilà, il y a eu un avant et un après Allegri et je trouve qu'il n'a pas su se renouveler par rapport à l'évolution du football actuel.
Sur l'évolution, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'impression effectivement que contrairement à certains entraîneurs, moi je pense à Spalletti qui a beaucoup étudié après son départ à l'Inter, parce que c'est vrai que moi, d'Intellista, j'ai un bon souvenir de Luciano Spalletti, mais le jeu que proposait Luciano Spalletti, c'est quand même un jeu fait de centre, qu'Andrea pour Icardi, c'était pas folichon, ça n'a rien à voir avec le jeu qu'il a proposé au Napoli. Et Spalletti, pendant ces 2 années, alors non pas au chômage, puisqu'il était payé par l'Inter, mais en tout cas ces 2 années à l'écart, il a beaucoup étudié, il a beaucoup travaillé, il est revenu avec une vision moderne du football. Et Allegri là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais on a l'impression qu'il est un petit peu resté, comme le disait Vito, dans le côté un peu football des années 2010. Et ben, voilà, le football, il a changé, pour prendre un petit peu une tournure de phrase bien connue. Et lui, ben, il est un petit peu resté en retrait. On peut peut-être mettre aussi Mourinho, par exemple, dans la catégorie qui, fort de son ego et de sa forte propension à motiver les joueurs, a peut-être oublié aussi de renouveler le côté jeu.
Moi, je vais en prendre encore le prisme du milaniste parce que c'est sûr que j'ai moins d'infos que Vito ou d'autres. Mais moi, j'ai un souvenir de quand il arrive à Milan en provenance de Cagliari, où Berlusconi, encore une fois, prend un entraîneur sans titre et avec Galliani, ils en font un entraîneur qui a pris le Scudetto. Il faut quand même pas oublier qu'on parle de jeu, on parle aussi de, comment dire, d'effectifs. Parce qu'évidemment, selon ton effectif, selon ce qu'on t'a à ta disposition, tu es censé aussi faire quelque chose. Il y a deux types d'entraîneurs. Il y a les pragmatiques et les dogmatiques. Allegri, c'est un pragmatique. Donc, avec ce qu'il a, il essaie de faire quelque chose. Moi, j'ai quand même un souvenir d'un Milan qui gagne le Scudetto 2011. Avec, je vais juste parler de l'attaque parce que sinon, on va, je ne vais pas vous réciter les 27 morts de l'effectif, même si je m'en rappelle. Il a quand même Pato, Inzaghi, Robinho, Cassano arrivé en hiver, Ibrahimovic, Kevin Prince Boateng et Ronaldinho. Et Seedorf, qui joue parfois numéro 10. Il arrive quand même à se mettre à dos Ronaldinho et à le dégager. Et avec cette équipe-là, il gagne le Scudetto avec le Milan. Mais je pense que c'est un des Milans les plus soporifiques où l'année d'avant, sous Leonardo, ils finissent troisième, mais en faisant un football complètement champagne avec des joueurs moindres. Tout ça pour dire qu'Allegri, à la Juve, finalement, là où un Inzaghi ou un Conte vont toujours sortir leur défense à 3 avec un 3-5-2 ou un 3-4-3 selon les variations, Allegri, il arrive, Vito pourra le dire, il arrive en finale des champions en faisant première fois un 4-2-3-1 de souvenir, où il a le fameux milieu de terrain de fou furieux, et celle d'après en 4-3-3. Et là, en ce moment, il joue avec une défense à 3. Donc en plus, c'est un entraîneur qui fait un peu avec ce qu'il a et finalement qui ne donne pas d'identité de jeu. Et surtout, ce n'est pas une légende. On parle de jeu, on parle d'Allegri, mais Allegri, c'est prouvé. Lui, il travaille beaucoup sa phase défensive. Mais devant, il a besoin d'avoir des joueurs mûrs, des joueurs déjà bons. D'ailleurs, on voit aussi une différence quand le dernier prend Di Maria qui est parti. On a l'impression que finalement, devant, ce n'est pas qu'ils sont imprévisibles, mais c'est presque, voilà, vous avez la balle, créez, faites quelque chose. Et il se base beaucoup sur les individualités des joueurs. Vlahovic, Chiesa, avant c'était Tevez. Il a ce type de joueur et finalement, il n'y a pas un vrai style de jeu de la Juve. Il peut très bien jouer avec deux numéros 9, il peut très bien jouer avec Chiesa et Milik, il peut très bien jouer avec Keane et Chiesa. Et finalement, c'est ça aussi, je pense, qui doit aussi crisper l'histoire de la Juve, c'est que tu as l'impression qu'il ne bosse pas, qu'il n'a pas d'identité, qu'il ne bosse pas. C'est qu'il a des joueurs, il les place et il se débrouille.
Embrayé sur ce que disait Antoine, je suis complètement d'accord avec lui. On a vu pendant 2-3 matchs cette saison une doublette offensive en ayant Vlahovic et Milik. Enfin, je ne comprends pas comment ce duo, de façon cohérente, footballistiquement parlant, comment on peut associer un tel duo. Et ce n'est pas qu'on l'a vu sur un seul match où il y avait des blessures et qui peuvent expliquer que voilà, on a besoin peut-être d'un poids offensif sur les 15 dernières minutes du jeu et que Milik peut apporter également je veux dire, de l'ampleur offensive à cette équipe de la Juve. Et c'est vraiment, ça a été répété pendant 2 ou 3 matchs et on ne comprend toujours pas pourquoi. J'ai aussi un autre exemple défensivement. Alexandro, mois de novembre, loupe tout le mois de novembre. On arrive au match contre Monza et il joue 1 minute le match précédent face à l'Inter et il est mis titulaire contre Monza alors que Rugani enchaîne les matchs et se débrouille plutôt bien avec une certaine tendance positive quand il est sur le terrain. Donc c'est tous des choix qui sont vraiment incohérents et que chaque semaine on se dit, mais. Quelle est la logique sportive derrière tout ça, derrière ces choix? On a certainement des paramètres que nous, on ne dispose pas, parce qu'on juge en tant que tifosi. Donc, forcément, il y a toute une série d'informations que nous, on n'a pas à notre disposition. Mais je veux dire, on voit quand même les matchs, on voit ceux qui sont. Un Alexandro n'a plus rien à faire sur un terrain de foot, je veux dire, dans l'ampleur des matchs de la Juve. C'est le genre de joueur, il ne doit plus faire partie du terrain. Et ils sont toujours là et on se demande pourquoi, en fait. Pourquoi. Quelle est la logique dans tous ces choix-là?
Ci sono dei cavalli che hanno bisogno di paraocchi e dei cavalli che non hanno bisogno di paraocchi. La differenza è che ci sono dei cavalli, quelli che mettono paraocchi perché quando gli arrivano cavalli vicino gli dà fastidio e quindi magari o frenano e allora li mettono paraocchi perché così almeno guardano solo avanti.
Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le côté communication aussi à Vito d'Allegri. C'est vrai que il a commencé la saison de façon plutôt modeste. Ensuite, il s'est un petit peu enflammé en décembre lorsqu'il y avait la lutte pour le Scudetto avec l'Inter. Il y a eu pas mal de saillies qui, forcément, avec le recul, lui retombent un petit peu sur le bec parce que enfin, voilà, l'histoire des chevaux, l'histoire des gendarmes et des voleurs, tout ça, forcément, ça fait un petit peu tache forcément avec le recul. Mais surtout, je voudrais revenir avec vous sur le côté traitement médiatique de Massimiliano Allegri, puisque, alors bon, moi qui vis en Italie, du coup, je suis assez plongé dedans, mais bon, vous, vous suivez de très près aussi la presse italienne et les télés italiennes. Je trouve qu'il a une, comment dire, une clémence et qu'il a surtout des amis. Bon, alors je suis personne pour les critiquer, mais quand je vois des Lazzaroni, des Sabatini, des personnes comme ça qui semblent le défendre comme si c'était leur père ou leur fils, ça me laisse assez perplexe par rapport au poids qu'a Massimiliano Allegri et par rapport au réseau qu'il s'est créé. Et c'est vrai que du coup, Ça envenime un petit peu la situation, je trouve, autour de lui. Est-ce que ça crée encore plus les pros et les anti Allegri? Je sais pas ce que tu en penses, Vito, là-dessus.
Ouais, forcément, ça, je vais dire, ça cristallise les débats dans le sens où voilà, les interventions de. Tu as toujours l'impression que tu as une certaine partie de la presse qui est toujours un petit peu pris en servitude par Allegri. Je pense notamment à comme tu les as cités, Zazarone, Capuano aussi, qui a sorti un article il y a quelques jours, qui était, je pense, on peut le dire, un des plus honteux des dernières années de la presse italienne, où on nous demandait de dire pardon à Allegri parce qu'il était Juventino. Ok, mais sur quelle base tangible et cohérente? Aucune. Donc, il y a eu Carrès aussi qui n'arrête pas de le défendre. Voilà, on se rend compte que c'est toute une partie de presse. Mais d'un autre côté, il y a aussi certains qui remettent un petit peu en question son apport après légitimement, parce que bon, on est quand même après 3 années du débat à Allegri. C'est la première année de la direction Giuntoli-Emann, mais c'est la troisième année d'Allegri en tant que guide technique de cette équipe. Donc il ne faut pas oublier, il y a eu Taquinard, il y a eu Di Livio, il y a eu aussi plus récemment Bonini qui a été relié par Nicolas Skira ce matin. Et même Ravanel qui avait critiqué un petit peu sa phrase en disant gagner un point sur Bologne. Donc c'est vrai que ça, entre guillemets, ça polarise le débat et ça permet aussi de faire ouvrir les yeux à certaines personnes, de montrer que voilà, après 3 ans, on est quand même un peu en droit de demander davantage de ce projet technique, et c'est pas la chose qui peut se voir sous nos yeux pour le moment.
Par exemple, c'était hier ou avant-hier, d'ailleurs je te l'ai envoyé en privé, Vito, Corriere dello Sport qui a fait un article à la gloire d'Allegri parce que c'est la Juventus la plus jeune depuis la saison 93-94 en moyenne d'âge, sur les joueurs utilisés, moins de 26 ans de moyenne d'âge, quand à l'époque de Conte entraîneur ou même le premier mandat d'Allegri entraîneur, on était sur du 28 ans de moyenne d'âge. Ce qui en gros est la moyenne des équipes qui gagnent le Scudetto, c'est la moyenne de l'Inter cette saison. Et voilà, c'est avec un peu plus de maturité. Mais voilà, des fois on a l'impression qu'on redimensionne la Juve comme si c'était ben, Bologne, justement, tu disais tout à l'heure, gagner un point sur Bologne. On a l'impression que c'est ça, alors que c'est quand même la plus grosse masse salariale d'Italie. Tu as des Vlahovic, tu as des Chiesa, qui ne sont pas vieux, certes, mais qui sont déjà des joueurs qui ont une vraie expérience internationale. Donc là-dessus aussi, Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses. Parfois, j'ai l'impression qu'on traite la Juve et les résultats de la Juve comme si c'était ouais, Bologne ou l'Atalanta.
Non, en plus, enfin, je pense que Vito sera d'accord. Ils font ces articles où ils disent que c'est la Juve la plus jeune, etc. Mais pourquoi c'est la Juve la plus jeune? Parce qu'ils ont tellement de problèmes financiers à cause des mauvais investissements qui avaient été validés par l'ancienne direction dont faisait partie aussi Marotta, même s'il apparemment était contre, par exemple, l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, la Juve joue avec des jeunes. Pour quelle raison? Premièrement, parce qu'ils n'ont pas d'argent à mettre sur certains gros transferts. Deuxièmement, parce qu'ils paient leurs erreurs de transfert. Trois, parce qu'ils ont quand même deux joueurs qui sont suspendus. Je rappelle un pour dopage, qui est Pogba, qui était quand même payé 12 millions d'euros par an, et Fagioli, qui était aussi un jeune prometteur. Donc, en fait, ils font passer leurs mauvais résultats, leur mauvaise gestion par une espèce de changement de philosophie. Voilà, on fait jouer les jeunes, c'est super, etc. Enfin bon, on parle de quels jeunes? On parle de jeunes comme Lovic qui sont payés 70 millions d'euros? On parle de quel type de jeunes? Et tout ça en fait rejoint tous ces médias qui protègent Allegri. Là où par exemple l'an dernier un mec comme Inzaghi arrivé troisième du championnat et qui au final des champions se faisait à juste titre aussi lyncher dans les médias, ou un mec comme Pioli qui a eu 60% de son effectif qui a été changé toutes les semaines, c'est Pioli out, Pioli out, Pioli out. Et là, on a un mec comme, voilà, comme Allegri, où tu as son ancien mentor Galeone, qui a une petite rubrique sur Allegri tous les lundis matin sur Gazzetta dello Sport, et qui passe du vernis pour défendre en fait des choses qui sont indéfendables. La Juve a un effectif, une masse salariale qui est énorme, ils ont des grosses dépenses, ils ont des joueurs. C'est incompréhensible qu'ils soient encore en poste, c'est incompréhensible qu'on parle qu'ils restent, parce que jeunes, pas jeunes, enfin oui, ils ont des jeunes joueurs. Mais il y a quand même beaucoup de vieux briscards aussi, et même avec des jeunes joueurs, comme tu dis toi Cédric, quand en plus une saison tu ne joues pas la Ligue des Champions, tu ne joues pas l'Europe, tu peux pas en fait être autant à la traîne en championnat, et tu peux pas perdre 15 points, 16 points en 40 jours sur l'Inter, en jouant deux fois moins de matchs, en ayant ton effectif au complet, ce type de joueur. Je suis désolé. Et justement, si c'était par exemple l'année de Pirlo, qui a eu un bilan mitigé, mais qui finalement a quand même gagné une coupe, lui, et s'est qualifié en C1, on pourrait être un peu plus indulgent. Mais avec Allegri, plus tu es entraîneur de haut niveau, plus l'exigence augmente. Donc pour moi, ça, c'est du vent. Sa direction, c'est de le protéger, Mais je pense pas que ça pourra durer aussi longtemps.
Sur les jeunes, Vito, et après on parlera justement de l'avenir, mais sur les jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a jeunes et jeunes, un Chiesa ou un Vlahovic qui ne sont plus très jeunes en plus, même si en Italie on est jeune jusqu'à au moins 25 ans, mais même Rougani, on a l'impression qu'il est encore jeune en Italie, mais
T'es encore gentil quand tu dis 25 ans.
C'est vrai que c'est même du 26-27 ans, parfois on lit des articles, parfois on dit le jeune joueur, qui... enfin, oui mais bon, quand tu vois que le Barça lance des jeunes de 15-16 ans, que les sélections anglaises, brésiliennes mettent des joueurs de 17-18 ans titulaires, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Mais bon, passons, c'est un autre vaste débat. Mais on va écarter les jeunes achetés et achetés chers. Mais pour ce qui est des jeunes du cru, parce que c'est vrai que la Juve, tout de même, depuis plusieurs années, a mis en place une vraie politique de jeunes, l'équipe U23 qui porte ses fruits, que ce soit pour la Juve ou en tout cas pour valoriser des joueurs, puisque Soulé, qui a encore mis un très beau but là avec la sélection U23 argentine, qui but qui a fait un petit peu le tour du web. Voilà, c'est un joueur qui, sûrement, s'il n'est pas gardé, sera vendu la saison l'été prochain pour 30, 40 millions d'euros minimum. Donc voilà, il y a un vrai travail et un vrai investissement, puisque ça coûte à peu près 8 millions d'euros par an, hein, l'équipe U23. Donc un vrai investissement qui porte ses fruits. Mais donc, quand on regarde les jeunes, Vito, qui sortent justement du cru, est-ce que tu trouves qu'ils sont si bien valorisés que ça? Les
Non,
Yildiz,
justement.
qui est la pipite, mais aussi les Ealing. Même Miretti, qui mine de rien, a un peu du mal à avoir de la continuité. Voilà, qu'est-ce que tu en penses sur la valorisation des jeunes qui n'ont pas éclos ailleurs?
Justement, Antoine en parlait, on est un petit peu dans un projet jeune avec un entraîneur comme Allegri qui nous répète sans cesse en conférence de presse qu'il y a des erreurs de jeunesse, que je ne sais plus si c'était contre le Genoa, il me semble que Miretti fait une erreur qui donne but au Genoa la saison dernière. Et alors, il lui tombe dessus en conférence de presse, il ne sait même pas pourquoi. Bon, c'est une erreur de jeunesse, on le sait tous. C'est le risque aussi à prendre quand tu veux faire jouer des jeunes. Et on se rend compte aussi que bah, les Miretti, les Yildiz, les Ealing Junior, en jouant en plus, ils deviennent aussi de plus en plus décisifs. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre aussi en compte. Il y a toute une série de joueurs qui sont payés un peu au prix d'or, mais voilà, on ne parle pas n'importe qui non plus. On parlait tout à l'heure de Vlahovic, il a quand même mis 37 buts sur l'année civile en 2021. Il y a eu Bremer qui était le meilleur défenseur de Serie A en 2021-2022. Donc, je pense qu'avec cette matière première de la Next Gen qui montre que, elle a des arguments et des compétences à faire valoir, et ses profils, je veux dire, d'investissement bien, bien sentis, je pense quand même qu'en l'état actuel des choses avec le groupe de la Juve, il y a quand même moyen de faire mieux que ça d'un point de vue technique. Je veux dire, comme l'a dit Antoine, on a des moins 16, des moins 17. Perdre autant de points en 40 jours sur l'Inter en ne jouant qu'un match par semaine, c'est complètement ahurissant. Bon, il y a une retombée du fait d'avoir perdu le match contre l'Inter, hein. Je ne dis pas, mais d'un point de vue mental, lâcher complètement et prendre 7 points ou 8 matchs en ayant eu le Genoa, Vérone, l'Empoli à jouer, c'est quand même assez inquiétant. Et je n'ai pas l'impression que les jeunes sont plus coupables que ceux avec plus d'expérience. Il suffit simplement de prendre l'exemple de Nongué aussi à Naples où il rentre à la 76e et il est sorti à la 90e parce qu'il provoque un penalty. Je veux dire, c'est des exemples qui montrent qu'ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Et quand on voit les noms, Soulé, Parra, Frosinone, il fait une saison assez remarquable. Même Baranekia qui est vraiment
Bien
intéressant
sûr.
dans ce profil de 6. Voilà, je trouve qu'il y a quand même de la matière à valoriser et cette next gen apporte une valeur ajoutée à l'effectif. Et j'ai pas l'impression qu'Allegri est en mesure de pouvoir aussi valoriser cette partie du club.
Ils vont prendre en prêt un Alcaraz, mais ils ont un Barrecha qui est en prêt à Frosinone, c'est incompréhensible. Après, évidemment, ils vont aussi dire que la Frosinone, ils jouent beaucoup de matchs, donc ils montent aussi en niveau. Je ne sais pas si Soulé aurait fait la même saison avec Allegri, je pense d'ailleurs pas du tout. Mais comme tu viens de dire, toi, Vito, c'est que parfois c'est incompréhensible. En fait, je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui dit son mot là-dessus, mais qu'est-ce que tu vas prendre Alcaraz? Bon, là, apparemment, ils vont renouveler le prêt avec une option d'achat à 50 millions d'euros. Alors que tu prêtes un joueur qui, pour moi, il est pas en dessous, Barrecha, qu'Alcaraz, de ce qu'on a pu voir. Donc c'est pareil. Enfin, je pense que aujourd'hui on fait un podcast sur Allegri, très justement, mais je pense que Junto, il va falloir qu'il prenne aussi un peu plus ses choses en main réellement et qu'il arrête de faire, on va dire, d'avoir. Il est arrivé comme ça, mais je pense qu'il va falloir aussi qu'il mette sa patte, parce que on sait très bien qu'avec Sartor, Les Marotta aussi, c'est un des plus grands dirigeants du football italien. Donc à un moment donné, je pense que le coup près tombera pour Allegri. Je ne pense pas que ça pourra durer comme ça aussi longtemps, surtout avec les investissements qui sont faits. Et l'équipe à disposition, c'est impossible autrement. Je ne vois pas comment, Comment ça pourrait continuer comme ça?
C'est vrai qu'entre les augmentations de capital faites régulièrement par l'actionnaire pour couvrir les déficits et pour permettre à la Juve de rester compétitive, il y a forcément des attentes. Alors, Vito, selon toi, est-ce que les discours qui filtrent, parce qu'on a l'impression que, mine de rien, ce qui filtre le plus souvent, c'est la continuité avec un Allegri qui pourrait rester. Pour toi, c'est réel ou tu penses que c'est de la fumée, on va dire, pour couvrir la fin de saison, que l'objectif top 3, top 4 à minima soit assuré et une grande révolution cet été du côté de la Juve. Et si oui, avec qui selon toi comme entraîneur?
Moi, je pense qu'on ne peut pas objectivement continuer avec Allegri après 3 saisons. Pareil, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est de la fumée pour essayer de maintenir le groupe focus sur les derniers objectifs de la saison, notamment la Coupe d'Italie face à la Lazio et conclure cet objectif présumé de 4e place qui mènerait à la Champions League parce que je pense que financièrement, elle est vitale d'un point de vue droit TV. Mais voilà, je pense que je vois pas comment on peut objectivement penser que ce soit une bonne idée de continuer avec Allegri en ayant l'expérience des 3 années précédentes qui viennent de s'écouler. Et puis, il y a quand même certaines voix qui parlent d'un Jude Tull qui voudrait du changement. Donc, j'ose espérer en fait que ce sera la direction qui sera prise. Parce que franchement, je vois pas comment cet effectif pourra grandir sans un nouveau souffle donné par un entraîneur avec des idées plus contemporaines, je vais dire, plus tendance dans le foot actuel, parce que cette mentalité de pragmatique, comme disait Antoine au début de podcast, bon, on est en 2024, maintenant, je pense que les tifosi, ils sont en droit de demander une équipe qui gagne tout en jouant bien et que les deux sont pas un petit peu antinomiques. Donc voilà, je pense que la Juve a, comme tu l'as précisé, la plus grande masse salariale, elle a des dépenses d'investissement qui restent quand même assez conséquentes pour une structure comme la leur, et que je pense qu'il est grand temps de valoriser un petit peu toute cette matière première à leur disposition avec un autre entraîneur qu'Allegri.
Il y aura le Mondial des clubs à la saison prochaine pour la Juve, puisque
C'est ça.
la Juve s'est qualifiée aussi grâce au Napoli, donc qui a arrêté son parcours en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. La Juve qui accompagnera l'Inter pour le contingent italien lors de ce Mondial des clubs qui aura lieu aux États-Unis. Antoine, je te pose la question à toi en premier, ensuite je demanderai à Vito, mais pour toi, du coup, tu vois plus un Allegri sur le banc de la Juve la saison prochaine, un Conte ou un Motta, pour prendre trois catégories d'entraîneurs différents?
Pour moi, Conte, il va avoir. C'est pas un entraîneur, sauf s'il a changé sa philosophie, qui voudrait d'un groupe comme ça. En Conte, si elle a juste, c'est pour gagner encore, surtout qu'il a laissé une belle trace, même si c'est fini un peu mal avec l'ancienne direction. Donc, à moins que la Juve dépense sans Conte, je vois pas comment Conte peut venir.
Joli
Et
jeu de mots.
de quoi? C'est quelque
Joli
chose.
jeu de mots, dépenser sans compter pour compter. Ouais, c'est pas mal, pas mal.
J'essaie de m'inspirer de toi. En plus, comme on a un invité belge, je sais qu'ils ont un humour aussi très, très. J'essaie de m'adapter à mon auditoire, tu le sais. Je suis un caméléon. Ça peut être compliqué par rapport à ça. Et Mota, j'ai peur qu'il se crame à la Juve. Et en plus, Mota à la Juve, c'est compliqué pour moi à imaginer pour plein de questions. Mais donc, t'as pas parlé d'un troisième candidat qui est un ancien de la maison et peut-être qu'il pourrait faire aussi quelque
Paladino.
chose. Encore un
Paladino.
autre. À Paladino, laisse-le à Monza pour l'instant, mais je pense que le ZZ
Zidane. Ah.
fait quand même vraiment le temps qu'il n'entraîne plus. Je pense que on est d'accord aussi pour dire que quand une équipe, surtout qui est cotée en bourse, change d'entraîneur, ils ont aussi besoin d'avoir un gros nom parce que je pense que ça remobilise aussi un peu la piazza. Et donc je pense que Zidane, c'est possible. Zidane, il aime bien jouer avec 4 défenseurs. Pour moi, ils ont un effectif pour jouer à 4 derrière et avec un 4-3-3 ou en tout cas pas comme ça. Parce que même s'ils ont Cambiaso, pour moi, c'est pas assez de piston, enfin, c'est pas adapté à ce qu'ils veulent faire. Moi, je pense que justement, pour arriver ces 3 ans de difficultés, je vois bien Zidane arriver. Et je pense qu'au contraire d'Allegri, Zidane, au contraire d'Allegri ou d'un Conte, Zidane, il pourra avoir un peu d'indulgence pour lui dire, écoute, voilà, on fait 3 ans de contrat, la première année, c'est de faire au moins les 2 premières places, tu as le retour en Ligue des Champions, tu as le Mondial des clubs, avance, on te donne un peu d'oseille, on prend un peu de joueurs, etc. Mota, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il n'est pas encore assez mûr. Parce que, autant Mota, dans un Milan, je le vois parce qu'ils ont 2 objectifs. La Juve, c'est quand même un sacré broyeur d'entraîneurs. On a même vu des entraîneurs à la Juve, un peu comme le Real, se faire virer alors qu'ils sont tenants du titre, alors qu'ils gagnent le titre. Donc, à la Juve, c'est très compliqué. C'est un club qui est très clivant. Donc, Mota, au premier faux pas, ils vont dire, ah, de toute façon, c'est un intériste, etc., etc. Donc, je serais plutôt prudent sur ça. Et en tout cas, quoi qu'il advienne, je ne vois pas Allegri comment il pourrait rester. C'est trop faible. Après, il y a la Coupe d'Italie encore, mais
Tudor tire un peu
Comment?
le destin d'Allegri, non? Puisque avec cette Coupe d'Italie, Tudor, qui était l'adjoint, il faut le rappeler, de Pirlo, d'ailleurs, lors de la saison pré-Allegri, pré-retour d'Allegri, mais Tudor, entre le match là, de championnat lors du week-end qui arrive, qui serait important pour la Juve, parce qu'en cas de défaite, on pourrait commencer à remettre en cause peut-être même la quatrième place, on ne sait jamais. Et puis surtout la Coupe d'Italie, Vito, non? Enfin voilà, Tudor, un ancien de la maison qui pourrait un petit peu venir chatouiller Allegri.
Ce sera un coup du destin, je vais dire, sachant que ouais, il était adjoint de Pirlo, qui est un ancien de la maison. Maintenant, est-ce qu'on peut être sûr que cette COP soit vraiment, je vais dire, prépondérante dans le choix de continuer avec Allegri ou pas, sachant qu'on vient de 3 années de mandat, je suis pas certain non plus. Donc voilà, Antoine a donné aussi les arguments par rapport à Zidane. C'est des arguments qui se tiennent, et aussi la renommée un petit peu internationale, hein. On va jouer le Mondial des clubs, il y a la Champions League, il y a certains aussi aura à voir pour l'entraîneur d'un club comme la Juve. Maintenant, voilà, il y a aussi cette partie next-gen où je pense peut-être qu'un Motta pourrait aussi, un entraîneur émergent, qui pourrait aussi coller un petit peu à cette image de jeunesse que la Juve se donne pour l'instant. Donc voilà, il y a pas de, je pense qu'il y a pas de mauvaises idées, mais l'important c'est qu'on puisse partir sur quelque chose de différent, parce que je vois vraiment que le groupe est à bout de souffle dans cette tendance-là, quoi.
Puis ce sera un choix sûrement philosophique aussi des dirigeants, c'est se dire soit on veut regagner le Scudetto tout de suite et donc on va chercher un Conte, voire un Zidane, ou soit on décide de repartir sur un vrai projet en se disant bah, que pendant un an ou deux, l'Inter sera devant nous, mais on va reconstruire avec les Yildiz et compagnie. Et donc peut-être que dans ce cas-là, un Motta peut faire l'affaire, mais c'est vrai que c'est quand même la Juve. C'est compliqué de demander du temps, surtout quand ça fait déjà un petit moment que ça ronronne. Là, ça va donc faire la quatrième saison sans Scudetto, ça commence quand même à faire un petit peu long. Voilà, pour le club, quand même, il faut le rappeler qu'il y a 36 Scudetti officiellement, qui est bien sûr le club le plus titré d'Italie. Un petit mot à rajouter ou on peut conclure, messieurs?
Pour moi, c'est bon.
Pour moi, c'est bon. Peut-être dernière chose, c'est que je pense que Vito me rejoindra. Je ne pense pas que l'Inter est un superbe champion, et dans le sens où ils engrangent des points. Et en fait, le niveau comptable de la Juve n'est pas mauvais, mais je pense que ce qui pèse vraiment avec Allegri, c'est tout le mix de qu'il n'y ait aucun progrès en 3 ans, voire une régression, que la communication est pourrie. Et surtout, c'est que ce n'est pas d'être troisième, juste à 3 points du Milan, qui pose problème, c'est vraiment la série de matchs. Je pense que c'est les trois choses qui vraiment vont sceller son destin.
Surtout
Et
quand
voilà.
effectivement tu étais si proche de l'Inter, tu étais peut-être en sur-régime à l'époque, mais de passer à prendre ces 7 points en 8 matchs au moment clé de la saison où on te voit peut-être gagner le titre et toi au contraire tu t'écroules, tu te retrouves même troisième, c'est vrai que ce virage forcément fait très très mal à Massimiliano Allegri. En tout cas, on verra comment la saison se termine. Il reste encore 9 matchs de championnat pour terminer deuxième. Premier, c'est encore possible mathématiquement, on ne sait jamais. Mais bon, ce sera surtout sûrement une lutte pour la deuxième place pour la Juve qui est intéressée, donc la Coupe d'Italie. Et puis on verra donc en fin de saison si Massimiliano Allegri sera renvoyé à la maison, comme on le fait souvent en Italie, c'est-à-dire on met l'entraîneur de côté, on continue de payer son salaire. Parce que ce ne sera pas négligé aussi la partie économique forcément, puisque Massimiliano Allegri étant, je crois de mémoire, 8 ou 9 millions d'euros net par an de salaire, mine de rien, ça pèse un petit peu aussi forcément de le virer. En tout cas, on verra. Merci beaucoup Vito d'avoir été avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
C'était un
Merci,
vrai
Vito.
plaisir. Et puis ben Antoine, merci beaucoup à toi aussi, toi qui es un caméléon, comme nous le disait aussi bon sur la nationale comme c'était le cas ce matin, puisqu'on enregistre également ce 25 mars, bon en série C pour parler de Perugia avec Nicolas et parfait aussi pour parler de la Juve, voilà. C'est que dire de plus? Que dire à part merci, grazie.
Trois podcasts en une journée, là, j'ai retourné à mes fourneaux et j'en peux plus là.
En faisant un bon petit ragoût, en plus, on avait des images du ragoût qui est en train de cuire. En plus, vous dire, ça donnait un petit peu faim. Mais voilà, j'ai envie de te dire en grazie avec deux Z pour faire un hommage
Ah,
à un ancien joueur de la Juve.
ouais, un ancien ballon d'or.
C'est ça. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode de Pronto Calcio. Nous, on se retrouve très, très prochainement. Vous pouvez nous suivre partout, Spotify, Apple Podcast, Amazon, un petit peu toutes les plateformes, ainsi que sur X et sur Instagram. Ciao, ciao!